Il y a deux choses qui causent des dommages psychologiques, émotionnels et spirituels dans la vie de tous les êtres humains. La première, c'est la culpabilité, et la deuxième, c'est l'amertume. La culpabilité nous emprisonne et l'amertume nous empoisonne. Peut-être est-ce là ce que certains d'entre vous vivez ce matin. La culpabilité est la conséquence de quelque chose que nous avons fait de mal, tandis que l'amertume est la réaction que nous avons envers quelqu'un qui nous a fait du tort ou que nous pensons qu'il nous a fait du tort. La culpabilité et l'amertume, frères et sœurs, sont une prison et c'est le pardon de Dieu qui nous accorde, qui libère celui qui est prisonnier de la culpabilité et de l'amertume. Regardez ce que Paul écrit ici dans Éphésiens chapitre 4, versets 31 et 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. En d'autres mots, Paul est en train de dire, chassez de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, éliminez les cris, éliminez les insultes, abstenez-vous de toute forme de méchanceté, soyez au contraire bons et pleins d'affection les uns par les autres pour les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Est-ce qu'on peut entendre un amen là-dessus?
Amen.
Eh bien, on va prier. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce ce matin parce que nous avons, pour la plupart d'entre ceux qui sont ici ce matin, nous avons goûté à ton pardon un jour et cela, Seigneur, nous a permis de passer de la mort à la vie spirituelle, de faire de nous des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et Seigneur, tu nous demandes, Seigneur, de la même manière que tu nous as accordé ton pardon par grâce, eh bien, de pardonner nous aussi, Seigneur, de faire grâce à ceux qui nous font du mal, à ceux qui nous persécutent, à ceux qui médisent, qui nous calomnient. Et Seigneur, cela fait partie aussi du travail que tu opères dans nos vies pour nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment te remettre cette parole entre tes mains qui est la tienne. Nous voulons, Seigneur, recevoir ton enseignement, non pas celui d'un homme. Je te prie, Seigneur, de parler à travers ma bouche afin que tous et chacun ici présents ce matin puissent avoir la certitude, Seigneur, que tu t'es adressé à chacun de leur cœur et qu'ils sortiront de ce lieu grandi parce qu'ils t'auront rencontré dans ta parole. Et c'est en Jésus-Christ que je te prie. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Lorsque vous pardonnez vraiment à quelqu'un, et ce, de tout votre cœur, vous libérez deux personnes. La première, c'est la personne à qui vous avez pardonné, et la deuxième personne, c'est vous-même. En fait, le verbe pardonner signifie payer une dette. Il n'y a pas de pardon négocié, c'est-à-dire je te pardonne, mais recommence pas. Vous imaginez si c'était sur cette base-là que le Seigneur nous pardonnait? Il y a des gens, ça fait 30 ans, qui confessent le même péché. Vous imaginez le Seigneur s'il disait la première fois, « Je te pardonne, mais tu ne recommences pas. » On est cuit, quoi. Hein? Mais le Seigneur ne se lasse pas de nous entendre, nous demander pardon, parce que c'est dans la nature de Dieu de pardonner. « Je te pardonne, mais ne recommence pas. » Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous a donné comme modèle de prière le Notre Père. « Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. » Le péché est une dette qui est portée à notre compte, c'est une dette que nous devons. Nous avons péché contre Dieu et nous sommes incapables de payer cette dette, mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, nous a pardonné et a payé cette dette en donnant son propre Fils en sacrifice sur la croix. Amen. Frères et sœurs, il n'y a pas de pardon qui ne coûte rien. Voilà pourquoi souvent il y a des chrétiens qui hésitent à pardonner, parce qu'il y a toujours un prix à pardonner, frères et sœurs. Lorsque quelqu'un est pardonné, c'est parce que quelqu'un a payé pour lui. Par exemple, ça devrait être le contraire, mais je prends un exemple ce matin. Si mon frère Ernest me doit 1000 euros et qu'il me dise « Pasteur, je ne pourrais pas vous payer » et que je réponde « Ok, Ernest, tu ne peux pas me payer, je te pardonne, c'est oublié. » Au même moment, je prononce ces paroles, qu'est-ce que ça vient de me coûter? 1000 euros! Il y a toujours un prix à payer pour pardonner. Chers amis, pardonner signifie en fait payer la dette. Le verbe pardonner vient d'un mot grec qui signifie porter le fardeau. Est-ce que cela coûte quelque chose au Seigneur? Est-ce que cela a coûté quelque chose au Seigneur ou est-ce que cela coûte quelque chose au Seigneur lorsqu'il nous pardonne? Tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 1, verset 7 pour ceux qui ont leur Bible. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Paul écrit en lui, nous sommes délivrés du mal par son sang, c'est-à-dire en Jésus-Christ, versé sur la croix, et nos péchés sont pardonnés selon la richesse de la grâce de Dieu, selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce, il a payé lui-même ma dette, annulant ainsi lui-même cette dette. Voilà pourquoi lorsque nous parlons du salut, nous utilisons le mot grâce. Le prix payé pour nous sauver a coûté extrêmement cher à Dieu. Cela lui a coûté la vie de son fils, Jésus. Imaginez si si Dieu s'était dit en regardant son fils, c'est trop cher payé. Vous imaginez s'il avait dit, c'est trop cher payé pour une bande de renégats, de pécheurs qui ne veulent rien savoir de moi, qui baignent dans le péché, qui se moquent de moi. Vous imaginez si le Seigneur avait dit ça? Frères et sœurs, heureusement que nous avons un Seigneur qui est riche en grâce, selon la richesse de sa grâce. Et on est incapable d'évaluer la richesse de la grâce de Dieu parce qu'elle est illimitée. Amen. Lorsque vous êtes venu à Jésus-Christ et que vous avez dit, Seigneur, je te demande pardon parce que je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que j'ai besoin d'être sauvé, que Jésus est mort pour moi et qu'il a payé au prix de son sang sur la croix le coût estimé pour mon péché, Dieu vous a pardonné pour votre péché et vous êtes devenu un membre de la famille de Dieu. Mais vous n'en avez pas terminé pour autant avec le pardon, frères et sœurs. À partir du moment où vous avez été pardonné, vous devez commencer à pardonner aux autres. Le premier signe extérieur de la nouvelle naissance, c'est être en mesure de pardonner à ceux qui nous font du mal. Humainement parlant, on est incapable de toujours pardonner à ceux qui nous font du mal, mais en Jésus-Christ, Dieu nous donne la capacité en lui de pouvoir pardonner. Amen. Le signe intérieur de la nouvelle naissance, c'est qu'on met en application la parole de Dieu. On a un désir de lire la parole, de la méditer, de la mettre en pratique pour ressembler à Jésus. Mais extérieurement, écoutez, on doit ressembler à Jésus extérieurement et Jésus a pardonné. Nous devons apprendre aussi à pardonner. Dieu vous a fait grâce, vous devez faire grâce. N'est-ce pas ce que Jésus a souligné? Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à ceux qui ont péché contre nous. Une fois que vous faites partie de la famille de Dieu, une fois que vous êtes sauvés, une fois que vous êtes nés de nouveau, vous devez apprendre à pratiquer le pardon envers les autres, parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous empêcher de goûter à la miséricorde de Dieu. On ne peut pas assez insister sur l'importance du pardon. Et quand on dit pardonner de tout notre cœur, ça veut dire que c'est pas assez. La langue, le dire, c'est pas suffisant. Le pardon, il doit venir dans le cœur. Je peux dire à quelqu'un que j'ai pardonné et continue à le détester à mort. C'est ici que ça doit bouger, ça doit descendre ici. Jésus, c'est un homme qui parlait avec son cœur. C'était Dieu fait homme. Et Jésus, c'est dans son cœur qu'il a pardonné. Et Dieu, à travers Jésus, c'est dans son cœur, dans le cœur de Dieu, que l'humanité était pardonnée. Ou que, comme on l'a lu tantôt dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, que tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ, eh bien, reçoivent le pardon de leurs péchés. C'est important. C'est important, frères et sœurs. On n'insistera jamais assez sur l'importance du pardon. Il n'y a rien de plus dramatique que de voir des frères et sœurs ou des gens qui se disent frères et sœurs, qui rentrent dans l'église le dimanche matin et qui vivent et qui sont chacun de leur côté. Je ne parle pas ici, hein, je parle un peu partout. Je parle de l'Église en général, hein, mais qui sont incapables de se regarder, qui sont incapables de se parler. C'est contre l'Évangile, quoi. C'est contre l'Évangile. Premièrement, lorsque vous êtes pardonné, vous êtes sauvé, vous faites partie de la famille de Dieu, mais si vous ne pardonnez pas à pardonner aux autres, alors, chers amis, vous détruisez la communion qui existe au sein de la famille de Dieu. Il faudrait que vous veniez en avant ici de temps en temps, et je nomme pas de nom, Je ne dis pas que c'est ce côté-là ou ce côté-là. Je vous dis simplement qu'au fil de mes années pastorales, il y a des gens qui rentrent dans l'église et vous avez l'impression qu'ils ont mangé du chien enragé, quoi. Ouais. Et qui vont quand même participer à la Sainte-Cène. Hein. Qui vont quand même chanter des louanges au Seigneur et qui vont quand même louer le Seigneur dans l'église. Hein. Et là, tu es en avant, tu dis, coudonc, c'est après moi qui en veux, quoi. J'ai dit mercredi qu'une journée, je présidais la Sainte-Cène. Et il y avait quelqu'un, je ne sais pas encore de quel côté, qui était assis quand j'ai demandé aux gens de se lever, un chrétien baptisé qui restait assis. Et j'avais eu quand même des arguments assez solides avec lui durant la semaine. Et j'ai quitté ma place. Et j'ai dit, mon frère, est-ce que c'est à cause de moi que je reste assis? Et s'il m'avait dit oui, j'aurais quitté la salle de la table de Sainte-Sainte, j'aurais pas été capable de présider la table de Sainte-Sainte parce que je savais que mes frères avaient quelque chose contre moi. Ça, là, ça fait partie de ça. On a mis une salle de réconciliation. Vous savez, on n'est pas sur le bord de la Troisième Guerre mondiale. Hein? Là, on commence à en parler beaucoup. Hein? Alors, il y a Mikhaïl Gorbatchev qui a parlé cette semaine, qui a dit qu'on est juste sur la ligne rouge, que si nos hommes politiques ne reviennent pas à la raison et qu'ils ne mettent pas en application trois principes pour sauvegarder la paix, ça va péter, quoi. Hier encore, d'autres présidents de d'autres pays, d'autres sommités ont parlé qu'on est sur le bord d'une troisième guerre mondiale. Ouais. Parce que les grands de ce monde sont incapables de se réconcilier. On a mis Dieu dehors de la société, on a jeté Dieu en dehors du monde. Et les hommes, on le sait, sont incapables de régler leurs problèmes par eux-mêmes. Parce que ça prend l'amour de Dieu pour amener deux personnes à se réconcilier vraiment, vraiment. Hein? Vous savez, Hitler, il respectait les traités. Il disait, moi, je respecte les traités que je signe tant aussi longtemps que c'est bon pour moi. Hein? Tu ne veilles pas trop tard avec ce gars-là. Hein? Parce que tu rentres en ami, tu peux sortir en ennemi. Hein? Ouais. Mais la réconciliation, c'est important. Et on détruit la communion fraternelle qui existe au sein de la famille de Dieu quand on n'est pas réconcilié avec quelqu'un. Il y a quatre choses que j'aimerais relever ce matin, mais on va en relever, je pense, deux. On n'aura pas le temps de tout voir. Mais la première chose, c'est la suivante. Deux raisons, en tout cas, parmi les quatre, pour lesquelles vous êtes obligés de pardonner si vous êtes né de nouveau. La première, parce que dans sa grâce, verset 32, parce que dans sa grâce, Dieu vous a pardonné. Dieu vous a pardonné dans sa grâce. Amen. Amen. Dieu m'a pardonné dans sa grâce. Je dois faire grâce à mon frère et à ma sœur. Regardez ce qui est écrit au verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pourquoi devrais-je pardonner si vous pardonnez si vous péchez contre moi? Parce que Dieu m'a pardonné lorsque je péchais contre lui. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » C'est ce que nous appelons la grâce, frères et sœurs. Amen. La grâce. Le peuple de Dieu, c'est un peuple gracieux, mais ce n'est pas un peuple qui doit abuser de la grâce de Dieu. J'ai lu cette histoire concernant un jeune employé qui travaillait dans une entreprise en pleine croissance, et on a découvert qu'il avait détourné plusieurs centaines de dollars. Il fut convoqué au bureau du directeur, et il savait, en se rendant au bureau du directeur, que c'était probablement pour être congédié. Alors, ayant pris place, dans le bureau du directeur, celui-ci lui dit, « Est-ce que c'est vrai, jeune homme, que tu as fait ci puis tu as fait ça? » Le jeune homme penche la tête en disant, « Oui, c'est vrai, j'avoue que je suis coupable d'avoir commis ce qu'on me reproche. » Le directeur lui dit, « Permets-moi de te poser une question. Si je devais te pardonner et te permettre de conserver ton emploi, est-ce que je pourrais te faire confiance que tu agirais dorénavant honnêtement? » Le jeune homme lui répondit, « Monsieur, si vous me pardonnez, si vous êtes prêt à oublier ce que j'ai fait et que vous me donnez une autre chance, je serai le meilleur employé que vous avez jamais eu. » Le directeur lui dit, « Tu es pardonné. Mais avant que tu partes, je veux que tu saches que tu n'es pas le premier dans cette entreprise qui a commis une telle faute. Il y a plusieurs années de cela, alors que j'étais un jeune employé comme toi, j'ai fait exactement la même chose. Et on m'a pardonné pour ce que j'avais fait. La miséricorde qu'on a manifestée envers moi, aujourd'hui, je la manifeste envers toi. Que Dieu continue à avoir pitié de nous deux. » Frères et sœurs, On a été pardonné. On doit pardonner. Frères et sœurs, c'est l'esprit du verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Sam Jones, un évangéliste méthodiste du 19e siècle, a dit ceci. Je me suis promis de ne jamais cesser d'aimer quelqu'un tant et aussi longtemps qu'il ne m'aura pas traité encore pire que moi j'ai pu traiter Jésus-Christ dans mon ancienne vie. Je vais le répéter. Je me suis promis de ne jamais cesser d'aimer quelqu'un tant et aussi longtemps qu'il ne m'aura pas traité encore pire que moi j'ai pu traiter le Seigneur Jésus dans mon ancienne vie. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. Un pasteur américain reçut un jour une lettre écrite par une femme qui se trouvait dans un hôpital baptiste. Elle écrit, « Cher pasteur, je vous écris parce que je ne savais pas à qui écrire. J'habite à Rome, en Géorgie, aux États-Unis, et je suis hospitalisé parce que j'avais besoin d'être opéré. J'avais un urgent besoin d'une transfusion sanguine. Deux jeunes de votre église sont venus à l'hôpital et ont donné de leur sang pour moi. Ils ne me connaissaient pas, je ne les connaissais pas. En fait, je ne connais même pas leur nom. Mais, dit-elle, vous trouverez ci-joint la note qu'ils m'ont laissée. Voici ce qui était écrit sur cette note. « Chère madame, nous avons donné notre sang pour vous, parce que Jésus-Christ a donné son sang pour nous. » Elle écrit, « Je ne sais même pas quoi penser, je ne connais même pas leur nom. Chère madame, nous avons donné notre sang pour vous, parce que Jésus-Christ a donné son sang pour nous. » Merveilleux, n'est-ce pas? Chers amis, nous pardonnons aux autres parce que nous avons d'abord été pardonnés les premiers. Une des raisons pour laquelle vous et moi, nous devons pardonner, c'est parce que Dieu, dans sa grâce, nous a pardonnés. La deuxième raison pour laquelle nous devons, vous et moi, pardonner, c'est parce que nous serions trouvés coupables de ne pas pardonner. Matthieu chapitre 6, verset 14-15, pour ceux qui ont leur Bible. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 14-15. Il y a des gens qui récitent le Notre Père par cœur sans réaliser ce qu'ils sont en train de réciter. Et Jésus ici met les choses au clair à travers Matthieu 6, mais aussi Matthieu 18 qu'on verra après. Matthieu chapitre 6, verset 14-15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Il y a une condition, hein? Le « si », en tout cas, à moins que la grand-mère française ait changé, le « si », c'est une condition. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, encore une condition, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Hey, c'est grave, ça, mais c'est une parole incroyable, ça. Si vous pardonnez à quelqu'un, Dieu va vous pardonner. Si vous ne lui pardonnez pas, vous pouvez être rassuré que Dieu ne vous pardonnera pas. Frères et sœurs, celui qui refuse de pardonner détruit le pont qui donne accès au trône de la grâce de Dieu. Et ne pas pardonner est un blasphème. Être capable de pardonner et avoir été pardonné sont deux choses qui vont ensemble. La seule personne qui peut se permettre de ne pas pardonner, c'est celle qui n'aurait jamais péché. Rappelez-vous de notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Chers amis, ce serait une folie, voire insensée, de ne pas vouloir pardonner à ceux qui vous ont fait du tort, parce que lorsque vous priez, bien, vous seriez en train de dire à Dieu, pardonne-moi mes offenses comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont... Quand vous dites le Seigneur notre Père, pardonne-moi Seigneur comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé, vous seriez en train de lui dire, traite-moi, Seigneur, comme moi je traite mon frère ou ma sœur. Ou pardonne-moi de la même manière que je pardonne aux autres. C'est ça, hein, la phrase de notre Père. C'est ça que Jésus est en train de dire ici. Hein. Vous êtes en train de dire à Dieu, je ne vais pas pardonner aux autres, alors le Père ne vous pardonne pas. Ou encore, Seigneur, je vais lui pardonner, mais je ne vais plus rien avoir avec lui. Je ne vais plus rien avoir avec cette personne. Mais Dieu va vous répondre, OK, je vais te pardonner, mais je ne vais plus rien avoir avec toi. Hein. Vous imaginez si Dieu disait ça pour nous? Ce serait épouvantable, hein? C'est terrible, quoi. Être privé de la présence de Dieu, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous êtes capable de vous passer de la présence de Dieu. Moi, je suis capable de me passer de la présence de Dieu. Mais se priver de la présence de Dieu parce qu'on refuse de pardonner. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train... Est-ce que vous voyez ce que vous êtes en train de demander? Père, pardonne-moi de la même manière que je pardonne à ceux qui ont péché contre moi. Chers amis, je me permets de vous dire qu'un esprit de non-pardon vous privera non seulement de toute forme de bénédiction de la part du Père, mais c'est un grave péché qui entre dans la même catégorie que le vol et le blasphème. Pourquoi? À cause de la nature même de Dieu qui est celle de pardonner, telle est sa nature. Nous sommes heureux que c'est un Dieu qui pardonne, n'est-ce pas? Dites amen à ça. Les meurtriers peuvent venir à la croix et être pardonnés. Les adultères peuvent venir à la croix et être pardonnés. Il n'y a pas aucun péché que Dieu ne pardonne pas parce que c'est dans la nature de Dieu de pardonner. Dieu est amour. Hein, on le crie souvent. Dieu est amour. Dieu est saint aussi. Mais il ne faut pas prendre non plus Dieu pour un idiot. Il ne faut pas abuser de la grâce de Dieu et vivre dans le péché, pratiquer le péché. Mais la nature même de Dieu, c'est de pardonner. Nous sommes tellement heureux qu'il en soit ainsi. Alors, si vous ne pardonnez pas, vous ne ressemblez pas à Dieu. Et si vous ne ressemblez pas à Dieu, vous n'agissez pas comme lui et vous n'êtes pas né de nouveau. Je vais vous raconter, ça m'est arrivé une fois, moi, de ne pas pardonner. Hein? Une fois depuis que je suis dans le Seigneur. Maintenant, ça, c'est un signe que je suis né de nouveau. Parce que si on ne pardonne pas régulièrement aux gens, qu'on en veut pas le monde, puis qu'on critique les gens, puis qu'on calomnie les gens, puis qu'on médise les gens, et que Dieu n'intervient pas, bien, on doit revoir, je m'excuse de le dire, on doit revoir finalement la base de notre conversion, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. On ne peut pas recevoir une bénédiction de Dieu à salir la réputation des gens. Maintenant, moi, c'est arrivé une fois, je n'ai pas pardonné à ma femme pour quelque chose qu'elle m'avait fait. Mais je lui disais que j'allais pardonner. Dieu m'avait envoyé des avertissements. Et quand il y avait des disputes, ma femme me disait, Jean, tu me ramènes ça sur le tapis, tu ne m'as pas pardonné. Ben oui. Ouais. J'ai eu un cancer. Ouais. Je veux savoir d'où vient mon cancer à cause d'un non-pardon. Et Dieu est rentré dans mon corps, pourquoi? Parce que je t'ai né de nouveau, puis que je déshonorais la grâce de Dieu en ne pas pardonnant à ma femme ou en pardonnant juste du bout de la langue. Et en prière, le Seigneur, un soir, je suis en prière au pied de mon lit, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, l'amertume et le non-pardon, c'est comme un cancer qui ronge. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Le Seigneur, il dit, tu pardonnes ou tu vas partir? Je ne te laisserai pas déshonorer ma grâce. Je suis allé voir ma femme, j'ai dit, écoute, tu avais raison, j'avais pardonné de la langue, de ma bouche, mais pas de mon cœur. J'ai dit, je te demande pardon. Je me suis remis à genoux et j'ai entendu le Saint-Esprit qui me dit, « Je t'ai guéri. Je t'ai guéri. » Frères et sœurs, si vous êtes capable de ne pas pardonner qu'il ne vous arrive rien dans votre vie, vous devez remettre en question votre nouvelle naissance. Je ne me gêne pas pour vous le dire. Vous devez remettre en question qui bien châtie bien. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu est votre Père et Dieu ne vous laissera pas déshonorer sa grâce. Mais si vous vivez dans le péché, et que Dieu n'intervient pas dans vos vies, remettez-vous en question. Ce n'est pas péché de se remettre en question, au contraire. Ça nous rapproche du Seigneur. On laisse le Saint-Esprit nous examiner. Amen. Ouais. Jésus a démontré la gravité et la conséquence du non-pardon à travers une parabole. Je vous invite à tourner maintenant dans Matthieu. On va terminer le message. Matthieu chapitre 18, versets 23 à 27. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Frères et sœurs, voici un roi qui décide de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il venait de se mettre à compter quand on lui en amena un qui lui devait des millions de francs. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants. Et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée, jusqu'à ce que la dette soit acquittée. Les serviteurs se jettent par terre Il se prosterne devant lui, il dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je vais te rembourser tout ce que je te dois. » Mais nous allons voir que c'est par orgueil que ce serviteur donne cette réponse à son maître, parce qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de rembourser cette dette, puisqu'il aurait fini ses jours en prison. Et le temps que tu es en prison, ben, tu ne travailles pas, puis le temps que tu es en prison, tu ne gagnes pas d'argent, et le temps que tu es en prison, tu n'es pas capable de payer ta dette. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Le laisser aller signifie qu'il le libéra de sa dette de la prison. Il faut faire attention ici de ne pas rater l'enseignement que Jésus veut faire ressortir ici. Lorsqu'il mentionne un montant de 10 000 talents, il est en train de parler d'une dette énorme. Un talent était ce qui représentait la plus grande valeur monétaire dans tout l'Empire romain. La recherche que j'ai faite mentionne que cela correspond au salaire payé à 10 000 personnes pendant 17 ans. En euros, cela représente des milliards d'euros. Lorsque Salomon construit le temple, juste pour vous donner un exemple, il a donné 3 000 talents d'or pour couvrir les parois du bâtiment. Là, on parle de 10 000 talents. C'est trois fois moins que, un peu plus que trois fois moins que Salomon a utilisé dans un chronique. Cet homme devait 10 000 talents, ce qui correspond à un montant astronomique. Cet homme est endetté jusqu'au cou et il n'avait aucun moyen pour lui de pouvoir s'acquitter de sa dette. Et le roi va lui pardonner en effaçant complètement sa dette. Cela coûte à ce moment, frères et sœurs, et quand je vous dis que le pardon coûte un prix, ça a coûté au roi 10 000 talents. Des milliards d'euros. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui que ceux qui possèdent des milliards d'euros seraient prêts à passer l'éponge sur quelqu'un qui leur devrait une grande somme d'argent. Mais le roi le fait ici. Frères et sœurs, à la croix, on a une dette envers Dieu, c'est notre péché. On est incapable de payer le prix exigé par la loi pour que notre péché soit effacé, pour que notre dette du péché soit effacée. Parce qu'on est tous des pécheurs. Le prix que la loi demande, il est élevé. Il n'y a aucun être humain qui peut remplir les conditions requises par la loi pour pouvoir payer votre dette et ma dette du péché. Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa compassion, parce que la nature de Dieu, c'est de pardonner. Dieu trouve un moyen. Il se fait lui-même homme dans la personne de Jésus-Christ. Lui qui est sans péché, vient prendre les péchés, vos péchés, mes péchés, pour payer la dette exigée par la loi. Celui qui accepte que le Seigneur Jésus est le seul qui puisse payer la dette de ses péchés, la parole nous dit, votre dette, elle est effacée. Et Jésus et le Seigneur dit, je vais oublier ta dette. Je ne te remettrai jamais sous le nez tous les péchés que tu as faits, puisque j'ai oublié. Maintenant, oublier pour le Seigneur, c'est certain que le Seigneur ne peut pas oublier. Mais oublier dans le texte biblique, ça veut dire, jamais je ne ramènerai en question, ou jamais je ne ramènerai en surface les péchés que tu as commis dans le passé. Frères et sœurs, ça c'est le vrai pardon. Quand un homme et une femme se demandent pardon dans une maison, et qu'à chaque fois qu'il y a une dispute, on ramène des choses qui datent de 15, 20, 25 ans, il n'y a pas de pardon. Hein? Parce que Dieu ne se permet même pas de ressortir nos vieilles âneries. Hein? Et quand nous, on dit, « Ouais, tu as fait ça dans le passé. Ouais, tu as fait ça dans le passé. Ouais, tu as fait ça dans le passé. » Pas de pardon, là. Hein? Vous imaginez si Dieu ouvrait le ciel puis commençait à étaler tous vos péchés et les miens? Vous imaginez? Ce serait épouvantable. Il ne serait même pas capable de se regarder. Puis imaginez aujourd'hui si Dieu affichait ici sur l'écran toutes les mauvaises pensées que vous avez eues envers peut-être un frère, une soeur durant la semaine, peut-être même envers le pasteur. Je ne sais pas combien, il y en a peut-être quelques-uns qui quitteraient l'Église tout de suite. On aurait peut-être honte. Et Dieu dit, si tu viens à la croix, tu confesses ton péché, c'est pardonné, c'est effacé. Maintenant, je vais vous donner un bon médicament pour arrêter de faire aller la langue, de calomnier, de médire contre quelqu'un. Quand vous rentrez dans l'Église, vous avez parlé en mal de quelqu'un durant la semaine, plutôt que de demander, vous contentez simplement de demander pardon à Dieu, vous allez voir votre frère et votre soeur, vous dites, je te demande pardon parce que j'ai saigné ta réputation, c'est seulement en parlant de Dieu. Je t'ai diminué auprès d'un frère et d'une soeur. Vous devenez redevable de votre frère, vous ne recommencerez jamais à assainir la réputation de votre frère et de votre soeur. C'est facile de demander pardon à Dieu quand on ne voit pas. C'est plus difficile de demander pardon à notre frère et notre soeur qu'on voit et qu'on a sali pendant la semaine. Et ça, c'est ce que la Bible nous demande. Hein? Ouais. Ça, c'est la guérison totale. Hein? Ça, c'est le meilleur médicament. Je ne parle pas de l'Église ici. Hein. Je connais des chrétiens qui, pendant toute une semaine, qui salissent des réputations et qui, avant de venir à l'Église le dimanche matin, « Seigneur, tu vois ce que j'ai fait de mal durant la semaine, je te demande pardon parce que je ne veux pas me priver de prendre la Sainte-Seine. » Le Seigneur, il doit être, mais... Il doit se dire, mais il n'a rien compris, quoi. Ça, c'est comme le gars qui dit à sa femme, « Je m'excuse, j'ai couché avec deux femmes cette semaine. Je ne recommencerai pas. La semaine d'après, il recommence, hein? » Écoute, excuse-moi, je suis encore tombé. Hein. Sa femme va lui dire quoi? Non, mais tu me prends pour une andouille, quoi. Là, tu abuses de la grâce. Hein? Tu abuses du pardon. Tu n'as rien compris dans le pardon. Hein? Et le Seigneur, il est clair ici. Hein? C'est ce que cet homme-là fait. Hein? Par orgueil, il dit, écoute, je vais tout te payer. Mais regardez la suite. Hein? Ce qui est écrit au verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, une centaine de francs. Il le saisit, il l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Le mot « denier » ici correspond à une journée de travail. Alors, il lui devait 100 deniers, c'est plus ou moins une centaine de journées de travail. Et là, le texte nous dit qu'il le saisit, il l'étranglait au point de l'étouffer. « Hey, donne-moi mes 100 deniers. » Allez, hein? Ouais. Voici un homme, frères et sœurs, qui avait été pardonné, qui avait vu sa dette qui représentait plusieurs milliards d'euros être effacée, et qui rencontre quelqu'un qui lui doit l'équivalent d'une centaine de journées d'ouvrage, qui ose le prendre à la gorge et le serrer à l'étouffer en disant, « Paie-moi ce que tu me dois. » Frères et sœurs, si le Seigneur nous demande à chacun de payer ce qu'on lui doit, on est tous disqualifiés, on est tous bons pour passer l'éternité en enfer. Ouais. Le Seigneur a payé la dette, il a payé la dette, il ne reviendra jamais sur cette décision-là. Maintenant, la décision, elle revient aux êtres humains. Tu acceptes que Jésus a payé ta dette ou tu vas essayer de la payer toi-même à travers la religion, à travers les bonnes œuvres, à travers ci, à travers ça. Tu n'y arriveras jamais. Tu es disqualifié parce que tu es un pécheur. Et tant aussi longtemps que tu restes un pécheur, tu es disqualifié. Tu dois devenir un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Sauvé par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle se manifeste à la croix. C'est là qu'elle est, la grâce. Et c'est là l'amour de Dieu. Dieu ne s'est pas contenté de nous dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je vais te montrer comment je t'aime. » Moi, je vais mettre en pratique l'amour, je vais sacrifier ce que j'ai de plus cher, je vais sacrifier la vie de mon propre fils pour que toi, tu puisses passer l'éternité avec moi. Quel Dieu merveilleux nous avons! Quel Dieu merveilleux nous avons! Regardez la suite. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Qu'est-il écrit au verset 30? Mais l'autre ne voulut pas et il allait le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Avez-vous remarqué une chose? Les deux se sont jetés à terre. Les deux se sont jetés à terre. Celui qui devait des milliards, eh bien, le roi lui a pardonné. Et lui, il arrive avec une centaine de deniers. Hein? Oui, mais il n'avait pas compris le pardon, hein? Mais absolument pas. Il n'avait pas compris la grâce que le roi lui avait faite. Est-ce que vous voyez ce que Jésus veut nous montrer ici? Jésus parle de la méchanceté de cet homme qui avait été pardonné. Dans les versets 32 à 34, il dit que le roi fut fort irrité envers cet homme à qui il avait pardonné. Alors, regardez la suite. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livre au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'était terminé pour cet homme. Hein? Il n'a jamais été capable de rembourser en entier cette dette. Regardez, il ajoute au verset 35, « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun ne pardonne pas à son frère. » C'est beau, hein? Mais là, si vous avez votre Bible, vous êtes en train de dire que le pasteur, il n'a pas tout dit. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » C'est le cœur. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus essaie de nous faire comprendre ici? Il est en train de dire qu'il est absolument impensable pour ceux d'entre nous qui avons été pardonnés de refuser de pardonner à quelqu'un. Refuser de pardonner, c'est manifester de la méchanceté envers notre prochain. Y a-t-il quelqu'un qui vous a fait du tort? Est-ce que vous vous empressez de lui pardonner ou est-ce que vous retenez votre pardon alors que vous avez été pardonné par le Seigneur au prix du sang que Jésus a versé sur la croix pour payer la dette de votre péché? Est-ce que vous vous rappelez ce qui est écrit dans Jacques, chapitre 2, verset 13? Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. En d'autres mots, Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'a pas eu pitié des autres. Et Jacques ajoute, mais la pitié triomphe du jugement. Dans Matthieu 5, 7, Jésus dit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont pitié, car ils obtiendront la pitié de Dieu. » Pourquoi dois-je pardonner? J'ai besoin de pardonner. Parce que Dieu m'a fait grâce et qu'il m'a pardonné. J'ai besoin de pardonner parce que j'étais coupable et que ma dette a été effacée. Seule une personne qui n'a jamais péché, je le répète, peut se permettre de ne pas pardonner, c'est-à-dire personne, puisque la parole nous dit à travers la bouche de l'apôtre Paul, car tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Lorsque Pierre demande au Seigneur combien de fois il devait pardonner à son frère, s'il ne cesse pas de pécher contre lui et qu'il lui demande si 7 fois c'était suffisant, le Seigneur Jésus dit, pas 7 fois, 70 fois, 7 fois. Faites un petit calcul, dans une seule journée. Faites un petit calcul, ce que ça peut vous demander, le nombre de fois que vous allez pardonner. Un homme dit un jour à John Wesley, « Je n'ai jamais pardonné à quelqu'un. » Ce à quoi John Wesley répliqua, « J'espère alors que vous n'avez jamais péché. » Et il faisait sans doute référence à Luc, chapitre 6, verset 37-38, où il est écrit, « Ne jugez point, vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, vous ne serez point condamnés. Absolvez, vous serez absous. Donnez, il vous sera donné. » On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la même mesure dont vous vous êtes servi. La mesure avec laquelle nous avons connu le pardon, c'est avec cette même mesure que nous pardonnons aux autres. La mesure avec laquelle nous avons connu le pardon de Dieu, c'est avec cette même mesure que nous pardonnons aux autres. C'est en fonction de notre compréhension du pardon que nous avons obtenu sur la croix. C'est ce qui va déterminer que nous allons marcher dans la sanctification. C'est ce qui va nous permettre de renoncer à soi-même, de porter notre croix et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des chrétiens qui vivent, qui sont au même niveau qu'à 30 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore saisi l'importance du pardon qu'ils ont reçu à la croix. Frères et sœurs, le pardon que vous avez reçu à la croix, c'est une question de vie ou de mort. Et en fonction de ce qu'on réalise à travers le sacrifice de la croix, on ne peut faire autrement que de pardonner aux autres et de partager ce pardon qu'on a reçu. Parce qu'on est envahi par la compassion qui animait le Seigneur. Lorsqu'il est venu sur la terre nous visiter, il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Vous imaginez si le Seigneur est arrivé, toi tu es correct, toi tu es qualifié, toi tu n'es pas qualifié, toi tu es qualifié, toi tu n'es pas qualifié. C'est épouvantable de penser à ça, quoi. Mais le Seigneur est allé vers les foules, il est allé vers tout le monde. Et encore aujourd'hui, il vient devant tout le monde. Augustin a dit, si vous souffrez une situation injuste parce que quelqu'un agit avec méchanceté envers vous, pardonnez-lui, sinon vous vous retrouverez devant deux personnes qui agissent avec méchanceté, vous et lui. De quelle façon je pardonne aux autres? Et je termine. C'est la conclusion. Priez d'abord pour eux. Vous pourriez commencer à demander à Dieu de bénir votre frère ou votre sœur. Vous découvrirez assez rapidement en priant pour cette personne qui vous a offensé que Dieu va agir dans sa vie. Vous désirerez alors prier encore plus pour cette personne. Et si vous priez pour quelqu'un qui vous fait du mal, quand vous allez la rencontrer dans l'église, c'est un miracle qui se passe hein, par rapport à la prière. Votre visage plutôt que de la garder. Avoir de la compassion pour cette personne-là. C'est le résultat, la conséquence de la prière. Et si vous dites, moi, je ne suis pas capable de prier pour elle, elle m'a fait trop de mal, il faut revenir à la croix, il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi encore dans le pardon de Dieu. Vous imaginez si Dieu disait, Jacques, tu viens à la croix, mais tu as tellement fait de choses sales dans ta vie, je ne suis pas capable de te pardonner. Vous imaginez Dieu dire ça? Alors nous sommes qui, nous, pour ne pas pardonner? Pour ne pas pardonner, ça veut dire que nous passons au-dessus de l'autorité de Dieu Et on se dit, toi, Seigneur, tu es capable, mais moi, je vais décider qui je peux pardonner et qui je ne peux pas pardonner. Deuxièmement, demander l'aide de Dieu pour pardonner. Les blessures peuvent être profondes. Admettez que j'ai éprouvé des difficultés à pardonner. C'est humain, on vient devant le Seigneur, on dit, Seigneur, Seigneur, tu vois tout ce qu'il me fait. Tu vois, il ne me lâche pas, Seigneur. Ah, c'est un... Je termine, je réalise avec... Je réussis à régler un problème. Ça revient avec autre chose. Dieu vous aidera en vous accordant la grâce de pardonner. Rappelez-vous jusqu'à quel point Dieu vous a tellement pardonné. Lorsque vous vous rappelez ce que vous étiez, lorsque Dieu vous a pardonné, il est facile de pardonner à ceux qui vous font du mal. Les attentes sont ce qui provoque une frustration. Par conséquent, réduisez vos attentes face à un frère et à une sœur. Si vous vous attendez à de grosses attentes de la part de votre pasteur, réduisez vos attentes. Sinon, vous allez être déçus. À la moindre chose que je ne fais pas à votre goût, vous allez être déçus. Vous allez dire, « Ah, moi, je quitte l'Église. C'est pas possible d'avoir un pasteur comme ça. » Et si vous avez ces mêmes attentes par rapport à des frères et des sœurs, quand ils vous décevront, vous allez quitter l'Église. Vous allez dire, « C'est des gens qui ne sont pas sauvés dans cette Église-là. » Nos attentes sont beaucoup trop élevées. Si je m'attends beaucoup et que je reçois peu, je serai bouleversé. Mais si je reçois au-delà de ce que je m'attendais à recevoir, alors vous m'aurez béni. Et je serai béni. Il en est ainsi avec les membres de notre famille. On a des attentes tellement élevées pour nos enfants, frères et sœurs. Tellement élevées. Trop élevées pour nos enfants. Et quand ils n'atteignent pas ce à quoi on s'attendait, on est tellement déçus. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prier, de remettre nos enfants dans les mains du Seigneur. Le Seigneur, il sait, il connaît leur capacité, et il sait là où il les appelle. Rappelons-nous les paroles de Paul, « Soyons bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ, et ce, indéfiniment. » Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter un